Bonjour, Jocelyne.
Bonjour, Marianne.
Un plaisir de vous avoir ici en studio. Ce sera la dernière chronique.
La dernière chronique de l'année avant l'été.
Un plaisir de vous avoir eu avec nous pendant toute l'année, Jocelyne. Vous et vos précieux conseils d'infirmière. Aujourd'hui, on voulait faire une chronique petits bobos et grands maux de l'été parce que, bon, parfois, c'est sans grande incidence. Parfois, ça peut être un peu plus embêtant.
Oui.
On voulait commencer d'abord par les piqûres d'insectes. Parce qu'on le sait, c'est la saison, parfois plus mineur, parfois plus embêtant. Quel insecte surveiller pendant l'été?
Bien, écoutez, les insectes que l'on connaît autour de nous présentement, les mouches, les maringouins, les guêpes, les abeilles, les araignées même peuvent nous piquer. Alors, tous ces insectes-là, on va essayer de ne pas les avoir près de nous. Alors, tantôt, on va parler de comment prévenir les piqûres. Je vais énumérer à ce moment-là des moyens de prévention. Mais je ne peux pas passer sous silence le virus du Nil, qui se transmet par les insectes, une piqûre infectée. Alors, les personnes les plus à risque sont 50 ans et plus ou les personnes qui ont des maladies chroniques. Et le virus du Nil, habituellement, il n'y a pas de symptômes immédiatement. S'il y a des symptômes, ils vont apparaître de 2 à 14 jours après, par des maux de tête, par de la fièvre, des douleurs musculaires ou des éruptions de boutons ou de rougeurs sur la peau. Bien sûr, il faut consulter le médecin.
Oui. Virus du Nil, Jocelyne, est-ce que ça peut arriver ici au Québec?
Absolument.
Ah oui?
Ah oui, absolument. On en a. Je n'ai pas de statistiques aujourd'hui sur le virus du Nil, mais il est présent.
OK.
Oui.
Et j'imagine que l'on est plus sujet si on est en camping, en milieu peut-être plus en forêt, par exemple?
Bien, on est plus sujet si on est dans un milieu de moustiques.
OK.
Et puis allons-y pour la prévention des piqûres. Partout où il y a des étangs d'eau, ou de l'eau stagnante, ben il y aura des moustiques.
Mm-hmm.
Il y a des périodes aussi dans la journée où il y a plus de moustiques, le matin, puis à l'heure du souper, je dirais. Alors, ces heures-là sont à éviter pour être en contact avec les moustiques, où on se protège deux fois plus.
Oui.
Alors, les gouttières de maison ont de l'eau stagnante également. Alors, il faut, de temps en temps, enlever ces eaux stagnantes-là.
Oui.
C'est surtout ce point-là qu'il faut surveiller dans nos environnements urbains. Et puis, comment on peut se prévenir des piqûres? Utiliser un chasse-moustique, bien sûr, lors des activités extérieures. Porter des vêtements longs et clairs. Et puis, installer des moustiquaires au bon endroit. Et surtout, si on va en camping, avoir des bons moustiquaires pour nous isoler. Et puis, ben, comme je l'ai dit, toujours réduire l'eau stagnante dans notre environnement.
Oui. Et voilà. On traite si ça démange. Bon, bien sûr, virus du Nil, on comprend bien qu'on doit aller consulter rapidement. Sinon, on traite avec une petite calamine.
Une petite calamine, tout simplement, ou de l'eau froide.
Maladie de Lyme, on ne peut pas éviter d'en parler de plus en plus. Et là, les statistiques le révèlent. Les Québécois sont touchés dans certaines, notamment la Montérégie qui est touchée. Ça, c'est préoccupant, Jocelyne,
oui, oui.
Parce qu'il y a des impacts sur le quotidien lorsque l'on est piqué et des symptômes assez importants.
Absolument. Et la maladie de Lyme, c'est provoqué par la piqûre d'une tique.
Mm-hmm.
Alors, c'est pas toutes les tiques qui sont infectées, par exemple. Alors, on dénote au Québec, dans la Montérégie, dans le sud-ouest de la Mauricie, le centre du Québec et le nord et l'ouest de l'Estrie, une progression significative de la maladie de Lyme. Donc, on dit qu'il est en progression au Québec.
Mm-hmm.
Il est causé, la maladie de Lyme, c'est causé par une bactérie qui se transmet par la piqûre d'une tique infectée.
Mm-hmm.
Donc, c'est comme une infection. Ça se présente avec les symptômes d'une infection, de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, raideur de la nuque, douleur musculaire et douleur articulaire. La rougeur peut s'étendre à 5 cm au moment autour de du lieu de la localisation de la piqûre. Et en 2014, on a dénombré 63 personnes infectées par la maladie de Lyme.
Mm-hmm.
Alors, voilà pourquoi il faut se prémunir de cette tique,
demeurer vigilant.
Oui.
Maintenant, on change de catégorie, Jocelyne. Coup de chaleur, coup de soleil, insolation, bien sûr. Un coup de soleil, c'est peut-être un petit peu moins majeur qu'un coup de chaleur qui peut être assez, assez grave.
C'est-à-dire qu'un coup de soleil, c'est une brûlure.
Oui.
C'est une brûlure par les rayons du soleil, UVA, UVB. c'est vraiment la peau qui est brûlée. Alors, il faut vous donner des soins de brûlure de peau. Alors, l'application d'eau froide, des compresses froides, puis prendre aussi des analgésiques comme de l'acétaminophène parce que ça peut faire mal, dépendant de quelle couche de l'épiderme et quelle couche de peau est touchée. Maintenant, un coup de chaleur puis une insolation, c'est la même chose.
Okay.
Ces deux mots-là sont synonymes. Un coup de chaleur, c'est vraiment, ça atteint tout le corps au complet. On peut faire de l'hypotension. Nos signes vitaux sont affectés, veut, veut pas. Soit, pour certaines personnes, leur cœur va battre très vite ou va battre très lentement.
Mm-hmm.
Puis la tension artérielle va descendre. Alors, des risques d'étourdissement, des risques de vertige, des risques de chute, puis des risques de perte de conscience aussi également.
Mais l'insolation, le coup de chaleur ne vont pas nécessairement avec la brûlure.
Non.
Ah oui.
Deux choses complètement différentes. Le plus grand risque d'un coup de chaleur, c'est la déshydratation.
OK.
Alors voilà, c'est vraiment tous les problèmes reliés à la déshydratation, la peau sèche, les muqueuses sèches et le reste qui s'ensuit. On ne va pas uriner, alors ça, devient,
donc,
ça peut être plus grave.
On s'hydrate.
On s'hydrate.
Et ce que l'on sait, c'est que les populations vieillissantes, les personnes âgées, ressentent peut-être un petit peu moins les signaux de soif, donc il faut être plus vigilant si on en a dans notre
absolument.
Entourage.
Puis les signaux là, d'alarme, c'est vraiment l'étourdissement, la fatigue, les maux de tête et la confusion même de la fièvre. On dénote, la santé publique a mis des balises. Chaleur accablante, c'est 30 degrés et 30 degrés centigrades là, de température et 40 degrés d'humidité.
Okay.
Ça, c'est chaleur accablante. Une chaleur extrême, c'est 3 jours à 33 degrés Celsius et 2 nuits où la température reste plus que 25 degrés.
C'est la canicule,
degrés.
Ça. Ouais.
Ça, c'est la grosse canicule et c'est là qu'on met nos mesures en place.
Et c'est là qu'on peut-être on lance un petit coup de fil à un proche plus âgé dans notre entourage, juste
exactement.
Lui demander « t'oublie pas de boire hein? ».
Exactement.
Évidemment,
oui.
Chapeau.
Chapeau, ombre, aller dans les endroits d'air climatisé, ventilation aussi, faire circuler l'air autour de nous, puis boire notre tasse d'eau régulièrement.
Oui. On n'aura pas le temps, Jocelyne, d'aborder ensemble tout ce qui est brûlure, plaie, foulure. On le sait, évidemment, ce sont des mots et des bobos aussi qui sont assez récurrents l'été. Je veux, par contre, que l'on parle de noyade.
Oui.
Parce que ça aussi, c'est préoccupant. Il y en a toujours trop à chaque année. On s'assure de quoi, là, pour éviter, bien sûr? On pense surtout aux petits, hein, d'entrée de jeu.
Oui, mais la société de comment ça s'appelle, la sauvegarde du Québec, je ne me rappelle plus. En tout cas, je vous le dirai, puis vous pourrez l'écrire sur le site. Avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ont publié un petit manuel qu'on peut avoir sur Facebook, et ça s'appelle « Encadrement sécuritaire des groupes d'enfants en milieu aquatique ». Trois choses. Ce sont des comportements. Alors, les parents ou les sauveteurs ou les personnes accompagnantes, on ne quitte pas des yeux les enfants.
Mm-hmm.
Même pas une minute. Ensuite, le port de la ceinture de sécurité, adapté à l'enfant, évidemment. Et puis, évidemment, connaître le milieu d'eau où l'enfant se baigne.
Voilà.
Les profondeurs, puis aussi les limites de l'enfant, puis les consignes qu'il faut donner à l'enfant.
Si on arrive près d'une rivière, on ne s'y aventure pas, si on ne connaît pas ce
si
coin
on connaît
de,
pas,
d'eau-là.
Non,
oui.
Et c'est le port du vêtement de flottaison individuelle qui est la clé. Puis, il ne faut pas croire un enfant non plus qui dit qu'il sait nager.
Mm-hmm.
Il peut s'être baigné puis il dit « Ah oui, je sais nager ». Alors, il faut vraiment vérifier ses habiletés à nager. Alors, ce petit livre-là, on peut l'avoir sur Internet, du gouvernement du Québec.
Oui.
Et puis, ça s'appelle « Encadrement sécuritaire des groupes d'enfants en milieu aquatique ». Et vous trouverez tout.
Oui. Société de sauvetage et Croix-Rouge également.
Oui, on collabore.
On glissera tout ça sur notre site. Jocelyne Gadebois, merci beaucoup. Grâce à vous, on passera un été non seulement en santé, mais en sécurité pour mieux se retrouver
absolument.
À l'automne. Un grand plaisir d'avoir partagé ces moments avec vous au cours de l'année. Jocelyne Gadebois, infirmière, merci.
Merci beaucoup à toi, Marianne, et bon été.